Ève Tizik, tandis que Sophie, poussée en plein soleil, a une santé superbe. Il triomphait. Il ajouta en riant « Ça n'empêche pas que je vais peut-être sauver Valentin, car il renaît à vue d'œil. Il engraisse depuis que je le pique. Ah, Ramon, vous y viendrez à mes piqûres. » Le jeune médecin leur serra la main à tous deux. « Mais je ne dis pas non. Vous savez bien que je suis toujours avec vous. » Quand ils furent seuls, ils hâtèrent le pas. Ils tombèrent tout de suite dans la rue Cancoin, une des plus étroites et des plus noires du quartier. Par cet ardent soleil, il y régnait un jour livide, une fraîcheur de cave. C'était là, au rez-de-chaussée, que Guiraude demeurait, en compagnie de son fils Valentin. Elle vint ouvrir, mince, épuisée, frappée elle-même d'une lente décomposition du sang. Du matin au soir, elle cassait des amandes avec la tête d'un os de mouton sur un gros pavé serré entre ses genoux. Et cet unique travail les faisait vivre, le fils ayant dû cesser toute besogne. Guiraude sourit pourtant ce jour-là en apercevant le docteur, car Valentin venait de manger une côtelette de grand appétit, véritable débauche qu'il ne se permettait pas depuis des mois. Lui, chétif, les cheveux et la barbe rares, les pommettes saillantes et rosées dans un teint de cire, s'était également levé avec promptitude pour montrer qu'il était gaillard. Aussi, Clotilde fut-elle émue de l'accueil fait à Pascal, comme au Sauveur, au Messie attendu. Ces pauvres gens lui serraient les mains, lui auraient baisé les pieds, le regardaient avec des yeux luisants de gratitude. Il pouvait donc tout. Il était donc le bon Dieu qu'il ressuscitait les morts. Lui-même eut un rire encourageant devant cette cure qui s'annonçait si bien. Sans doute, le malade n'était pas guéri. Peut-être n'y avait-il là qu'un coup de fouet, car il le sentait surtout excité et fiévreux. Mais n'était-ce donc rien que de gagner des jours? Il le piqua de nouveau, pendant que Clotilde, debout devant la fenêtre, tournait le dos. Et lorsqu'ils partirent, elle le vit qui laissait 20 francs sur la table. Souvent cela lui arrivait, de payer ses malades au lieu d'en être payé. Ils firent 3 autres visites dans le vieux quartier, puis allèrent chez une dame de la ville neuve, et, comme ils se retrouvaient dans la rue, « Tu ne sais pas, dit-il, si tu étais une fille courageuse, avant de passer chez la Fouasse, nous irions jusqu'à la Séguirane, voir Sophie chez sa tante. Ça me ferait plaisir. » Il n'y avait guère que 3 kilomètres. Ce serait une promenade charmante par cet admirable temps. Et elle accepta gaiement, ne boudant plus, se serrant contre lui, heureuse d'être à son bras. Il était 5 heures. Le soleil oblique emplissait la campagne d'une grande nappe d'or. Mais dès qu'ils furent sortis de Plassans, ils durent traverser un coin de la vaste plaine, desséchée et nue, à droite de la Viorne. Le canal récent, dont les eaux d'irrigation devaient transformer le pays mourant de soif, n'arrosait point encore ce quartier. Et les terres rougeâtres, les terres jaunâtres s'étalaient à l'infini, dans le morne écrasement du soleil, plantées seulement d'amandiers grêles, d'oliviers nains, continuellement taillés et rabattus, dont les branches se contournent, se déjettent en des attitudes de souffrance et de révolte. Au loin, sur les coteaux pelés, on ne voyait que les taches pâles des bastides que barrait la ligne noire du cyprès réglementaire. Cependant, l'immense étendue sans arbres, aux larges plis de terrain désolés, de colorations dures et nettes, gardait de belles courbes classiques, d'une sévère grandeur. Et il y avait, sur la route, 20 centimètres de poussière, une poussière de neige que le moindre souffle enlevait en larges fumées volantes, et qui poudrait à blanc, aux deux bords, les figuiers et les ronces. Clotilde, qui s'amusait comme une enfant à entendre toute cette poussière craquer sous ses petits pieds, voulait abriter Pascal de son ombrelle. « Tu as le soleil dans les yeux, tiens-toi donc à gauche !» Mais il finit par s'emparer de l'ombrelle pour la porter lui-même. « C'est toi qui ne la tiens pas bien, et puis ça te fatigue. D'ailleurs, nous arrivons. » Dans la plaine brûlée, on apercevait déjà un îlot de feuillage, tout un énorme bouquet d'arbres. C'était la Séguérane, la propriété où avait grandi Sophie, chez sa tante Dieudonné, la femme du Mégé. À la moindre source, au moindre ruisseau, cette terre de flammes éclatait en puissante végétation, et d'épais ombrages s'élargissaient alors, des allées d'une profondeur, d'une fraîcheur délicieuse. Les platanes, les marronniers, les ormeaux poussaient vigoureusement. Ils s'engagèrent dans une avenue d'admirables chênes verts. Comme ils approchaient de la ferme, une faneuse, dans un pré, lâcha sa fourche, accourut. C'était Sophie qui avait reconnu le docteur et la demoiselle, ainsi qu'elle nommait Clotilde. Elle les adorait. Elle resta ensuite toute confuse à les regarder, sans pouvoir dire les bonnes choses dont son cœur débordait. Elle ressemblait à son frère Valentin. Elle avait sa petite taille, ses pommettes saillantes, ses cheveux pâles. Mais à la campagne, loin de la contagion du milieu paternel, il semblait qu'elle eût pris de la chair, d'aplomb sur ses fortes jambes, les joues remplies, les cheveux abondants. Et elle avait de très beaux yeux qui luisaient de santé et de gratitude. La tante Dieudonné, qui fanait elle aussi, s'était avancée à son tour, criant de loin, plaisantant avec quelque rudesse provençale. « Ah, monsieur Pascal, nous n'avons pas besoin de vous ici, il n'y a personne de malade !» Le docteur, qui était simplement venu chercher ce beau spectacle de santé, répondit sur le même ton. « Je l'espère bien. N'empêche que voilà une fillette qui nous doit un fameux cierge, à vous et à moi. » « Ça, c'est la vérité pure. Et elle le sait, monsieur Pascal. Elle dit tous les jours que, sans vous, elle serait à cette heure comme son pauvre frère Valentin. » Bah, nous le sauverons également. Il va mieux, Valentin. Je viens de le voir.